Il est 18h30 ici à Paris et nous parlons de la laïcité ce soir dans le débat du jour.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
La laïcité, l'un des symboles visés lors de l'attentat qui a touché il y a 10 ans jour pour jour le journal français Charlie Hebdo, cette laïcité brandie comme étendard par l'hebdomadaire et érigée en principe par la France. Ce soir, nous parlons laïcité et religion. Avec cette question, est-ce que la laïcité entrave les religions ? Le mois dernier, lors de son voyage en Corse, le pape François a appelé à une, je cite, « laïcité évolutive ». Alors comment faire cohabiter laïcité et religion ? Pourquoi le sujet est-il aussi brûlant aujourd'hui ? Et où le marqueur doit-il être placé pour parvenir à l'apaisement sur cette question ? Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités. À mes côtés en studio, Philippe Portier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, spécialiste des laïcités, titulaire de la chaire Histoire et Sociologie des laïcités à l'École pratique des hautes études. Et votre ouvrage, en plein dans le mille, l'État et les religions en France. Face à vous, Carole Zerbib, bonsoir.
Bonsoir.
Proviseur du lycée Vauclin à Paris, co-responsable de l'Observatoire national de la laïcité du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. Notre troisième invité est en ligne avec nous. Bonsoir Nicolas Cadenne.
Bonsoir.
Co-fondateur de la Vigie de la laïcité, qui est un organisme indépendant et citoyen qui propose une veille sur ce sujet de la laïcité. Vous êtes un ancien rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, c'était entre 2013 et 2021. Et puis votre ouvrage « En finir avec les idées fausses sur la laïcité ». Voilà. Merci à vous trois, tout d'abord, d'avoir accepté l'invitation du débat du jour. Alors, j'aime bien débuter par une définition des termes du débat. Je trouve que ce soir particulièrement, c'est pertinent. Donc, je me tourne vers vous, Carole Zerbib. Que veut dire laïcité, selon vous ?
La laïcité, c'est une liberté, celle de croire ou de ne pas croire. Et elle permet de régir cela dans l'espace public. Voilà, ça permet de garantir une liberté. Souvent, c'est vu comme une loi liberticide. Et en fait, souvent, on explique aux élèves, parce que c'est une notion complexe à expliquer aux élèves. Alors, je vous parle des élèves parce que moi, je travaille dans domaine de l'éducatif. Et que souvent, les élèves voient cette loi comme une loi liberticide qui n'est qu'un interdit. Et en fait, je pense qu'il faut leur montrer de façon plus positive, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle permet et quelle liberté elle permet, et qui est quand même la liberté à chacun de croire en ce qu'il veut, et elle garantit la liberté de conscience.
C'est le premier mot à coller à la laïcité, la liberté, selon vous, Philippe Portier ?
Tout à fait. Si l'on prend la loi qui apparaît comme la clé de voûte de la laïcité en France, la loi du 9 décembre 1905, son article premier est très clair. La République assure la liberté de conscience. Et c'est autour de cette question que va se construire ensuite tout notre dispositif. Cette liberté de conscience se déclinant en liberté de ne pas croire, mais aussi en liberté de croire et de donner une manifestation collective, une manifestation sociale à cette affirmation de la liberté de culte. Voilà, en somme, ce qui définit notre modèle de régulation du croire, ne pas être contraint de se soumettre à des lois religieuses, mais aussi la possibilité d'aller au culte comme on le conçoit, sachant qu'aller au culte, ça n'est pas simplement aller à l'église, c'est aussi, dans le cadre de la laïcité française, une possibilité d'expansion et d'expression sociale.
Nicolas Cadenne, est-ce que vous avez le sentiment que cette liberté que vous évoquez, vous deux, concernant la laïcité, elle est respectée en France ?
Je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. La liberté, est-ce qu'elle est respectée ? Alors, en droit, en tout cas, elle se doit d'être respectée, bien sûr. De manière générale, cette liberté est respectée. Après, il y a dans le débat public certaines incompréhensions du principe de laïcité, des propos qui sont tenus à son sujet qui sont tout à fait erronés et qui peuvent conduire à de mauvaises applications de la laïcité et donc parfois avec une liberté qui n'est pas garantie comme elle devrait l'être. Et ça, c'est un vrai sujet. Et puis, bien entendu, il peut y avoir par ailleurs des atteintes à la laïcité, avec donc des volontés d'empêcher la liberté d'autrui de critiquer une croyance ou au contraire de la vivre.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'il est difficile de faire respecter la laïcité en France aujourd'hui ?
Ça dépend. À vrai dire, on ne peut pas généraliser, on ne peut pas avoir une réponse oui-non à cette question complexe. La laïcité touche à des champs très divers, des collectivités locales, des fonctionnaires, des particuliers, des administrés. Et parfois, la laïcité est parfaitement bien respectée, parfois elle ne l'est pas. Si on reprend le sujet de l'éducatif, de l'éducation, vous allez avoir des établissements où il peut y avoir des atteintes à la laïcité, d'autres où il n'y en a pas du tout. On a tendance à généraliser, à dire tout va mal, il y a des atteintes à la laïcité partout, ce n'est pas du tout le cas. En plus, il y a une confusion souvent entre les atteintes à la laïcité et des atteintes à d'autres exigences de la République, comme de manière générale les exigences minimales de la vie en société, comme par exemple les atteintes à l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est à distinguer des atteintes à la laïcité, mais on a tendance à les mélanger. Donc, on ne peut pas avoir de réponse générale. Je dirais que ce qui est évident, c'est qu'il y a des crispations très fortes dans notre pays depuis pas mal d'années maintenant vis-à-vis du religieux. Et qu'il y a bien sûr aussi des extrémismes religieux. On pourrait revenir sur les attentats islamistes, mais là, ça recouvre bien d'autres champs et ça ne concerne évidemment pas que la laïcité, ça touche d'abord à la question de l'ordre public.
Et quel lien vous faites entre les atteintes aux religieux, comme vous dites, et les atteintes à la laïcité ?
La laïcité, ça a été dit, garantit la liberté de culte, la liberté d'exprimer des convictions ou des croyances. Donc évidemment, si on porte atteinte à cette liberté, par exemple, de vivre sa foi, dès lors qu'on ne perturbe pas autrui, bah, c'est une atteinte aussi à la laïcité, puisque la laïcité est là pour garantir à chacun d'exprimer une conviction, une croyance. Ouais. On peut en France autant pratiquer un culte que l'on peut critiquer une croyance, cela devant se faire dans le respect mutuel. Et s'il n'y a pas ce respect mutuel, s'il y a des insultes, des appels à la haine, des manières de contraindre autrui, alors il peut y avoir des sanctions. C'est une atteinte à la laïcité. C'est d'ailleurs prévu par l'article 31 de la loi du 9 décembre 1905 qui condamne toute personne qui force autrui à une pratique cultuelle ou au contraire qui empêche autrui à une pratique cultuelle.
Vous dites d'une certaine manière que les atteintes à la laïcité, ce sera ma dernière question avant de distribuer la parole, mais sont aussi d'une certaine manière une atteinte aux religions. Mais est-ce que ça ne crée pas un flou entre la laïcité et le religieux ?
Mais il ne faut pas opposer la laïcité et le religieux. La laïcité, c'est le cadre commun. C'est l'outil qui va permettre de construire la maison commune et qui rassemble tous les Français, qu'ils soient croyants ou non, ou agnostiques, enfin ce que vous voulez. Ce n'est pas en opposition à la religion, c'est le cadre commun qui fait que vous avez un État qui est neutre et impartial pour garantir l'égalité entre toutes et tous, quelles que soient leurs croyances, leurs convictions, devant l'État, devant l'administration publique, devant la loi. Mais que l'on soit croyant ou pas, cela importe peu à l'État qui doit vous traiter exactement de la même manière. C'est ça la laïcité, c'est un État qui considère tout le monde de la même manière et qui n'a pas à savoir quelle est votre appartenance propre. Parce qu'il doit de toute façon délivrer le même service, être égal vis-à-vis de toutes et tous, et vous garantir aussi la liberté de culte si vous avez fait le choix d'une croyance, mais aussi la liberté de critiquer une croyance si vous souhaitez le faire, dès lors que, bien sûr, c'est dans le respect mutuel.
Carole Zerbib, vous qui êtes proviseur de lycée, que vous disent les élèves à propos de la laïcité ? Est-ce que, j'évoquais un sujet, là on parle laïcité et religion, qui est particulièrement brûlant depuis quelques années. Est-ce qu'il y a des critiques de plus en plus fortes qui sont formulées ? On parle des atteintes à la laïcité qui sont importantes, il y a de nombreux incidents recensés à l'école. Est-ce que vous avez des cas qui sont remontés régulièrement ?
Oui, il y a davantage d'atteintes à la laïcité qu'il y a 20 ou 30 ans. Oui, ça, effectivement. Et on l'a vu ces 20 dernières années. Et on l'a vu aussi, puisque le ministre Gabriel Attal a pris une position en renforçant la loi de 2004 et en prenant une position sur la question de l'abaya, en interdisant cette tenue, en reconnaissant que c'était une tenue religieuse et en l'interdisant dans les établissements scolaires. Donc il y a bien depuis quelques années des atteintes à la laïcité, alors que ce soit par le port de tenues religieuses ou par la contestation de certains enseignements avec des propos tenus par les élèves par lesquels la croyance l'emporte sur le savoir. Ouais. Et c'est exactement cela qu'on veut éviter à l'école. Et c'est pour ça que la laïcité est importante à l'école. Elle garantit le fait que les élèves ne soient pas sous le joug d'une religion.
Est-ce que ça veut dire que, pardon, je vous coupe, mais que finalement le religieux a du mal à trouver sa place, la religion a du mal à trouver sa place dans un État laïque ?
Non, je ne crois pas que ce soit ça, parce que dans un État laïque, les religions peuvent exister, sauf que c'est une affaire privée. Voilà, c'est-à-dire qu'à l'école, on a le droit de parler de religion. On peut parler de religion. La laïcité n'interdit pas de parler de religion à l'école. D'ailleurs, dans les programmes, on aborde la question du fait religieux. On parle de l'histoire des religions à travers les programmes d'histoire, notamment, ou de lettres, ou de voilà. On ne s'empêche pas de parler religion à l'école, mais ça reste une affaire privée. La croyance est une affaire privée, et elle appartient à chacun et on ne fait pas de prosélytisme. Voilà, le prosélytisme à l'école est prohibé.
Alors, je vous entends depuis le début de cette émission. La croyance, la religion, c'est une affaire privée. Il faut respecter la religion d'autrui. Mais Philippe Portier, le fait que des incidents soient régulièrement évoqués concernant la laïcité, d'atteinte à la laïcité, est-ce que ça montre pas que finalement, ces beaux principes sont difficiles à faire respecter ? Et est-ce qu'ils sont adaptés à nos sociétés actuelles ?
Alors, c'est un problème très, très difficile que vous abordez là. C'est le problème du rapport de la jeunesse à la laïcité. Rapport auquel se trouve confronté, problème auquel se trouve confronté toute une série d'enseignants, des proviseurs aussi, avec ce qu'on pourrait appeler une fracture générationnelle. Alors, je vais tout à l'heure, si vous le souhaitez, nuancer l'importance de cette fracture générationnelle, mais elle apparaît tout de même très clairement. J'ai eu avec un collègue de Bordeaux, Charles Mercier, l'occasion de faire une enquête auprès des jeunes, une enquête tout à la fois quantitative et qualitative. La distance entre la conception que les jeunes peuvent avoir de la laïcité et celle que les adultes développent est une distance tout à fait considérable. Les jeunes ont une conception beaucoup plus libérale de la laïcité que les générations plus anciennes et considèrent en particulier que le port des signes religieux devrait être permis non seulement à l'intérieur des établissements scolaires publics, mais même ce qui est pour la laïcité française le saint des saints, pour les fonctionnaires dans le cadre de leur espace administratif.
Ça traduit quoi, une ouverture plus importante ou une religiosité plus importante parmi la jeune génération ?
C'est, il faut absolument écarter l'idée que les jeunes seraient aujourd'hui revenus à des croyances institutionnalisées, à des croyances fortes.
Le catholicisme recule, on en parlera peut-être.
On en reparlera si vous souhaitez, mais ce qui apparaît très clairement, c'est au contraire une distanciation très forte vis-à-vis des institutions religieuses, vis-à-vis aussi du croire, même si sur un certain nombre de thèmes, et notamment la croyance dans des forces surnaturelles, la croyance dans le paradis, a dit aussi, on voit depuis quelques années une sorte d'affirmation de croyances qu'on croyait désormais dépassées. Non, ce qui existe bien davantage, c'est une sensibilité plus ouverte à l'altérité, une sensibilité qui fait une plus grande part au désir de l'autre d'être religieux, à partir du moment où ce désir de l'autre d'être religieux ne remet pas en cause un ordre commun. Et de ce point de vue, vous avez là une différence très très importante avec les générations plus anciennes. Vous voyez, la distinction, elle vaut en gros pour la génération 18-35 ans, et c'est ensuite que les choses se tendent vis-à-vis de la laïcité, où la laïcité est au fond plus conforme à un concept de privatisation du croire.
Et alors que les outils pour sensibiliser à la laïcité sont beaucoup plus importants aujourd'hui qu'avant. Ça pourrait être en opposition. Et vous êtes bien placé autour de la table pour le dire. Entre vous, Carole Zerbib, qui êtes co-responsable de l'Observatoire national de la laïcité, du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. On a Nicolas Cadenne qui est en ligne avec nous, qui est cofondateur de la Vigie de la laïcité. Il y a un observatoire de la laïcité. Il y a une charte de la laïcité qui est dans les établissements scolaires depuis de nombreuses années.
Oui, moi je dirais, alors c'est une question que nous nous sommes posées, évidemment, en travaillant sur ces populations jeunes, comment expliquer ce fossé générationnel ? Il me semble qu'il y a trois éléments essentiels qui peuvent l'expliquer. Le premier élément, c'est un mouvement général de nos sociétés vers une plus grande individualisation, vers une plus grande égalisation des conditions. Et de ce point de vue, ce schéma qui nous vient de Tocqueville vaut particulièrement dans les établissements scolaires où les jeunes ont beaucoup de mal à comprendre que leur désir d'égalité, leur désir d'individualisme puisse être contrarié par des règlements administratifs. Mmh. Ça, c'est un premier élément, je crois, très fort. Le second élément, c'est que par une sorte de paradoxe, les cours relatifs à l'enseignement moral et civique sont des cours qui mettent au premier rang le refus de la discrimination. Et il y a quelque chose de très difficile à expliquer pour les enseignants qui sont chargés de ces cours. À la fois, il faudrait éviter la discrimination et en même temps, on pose un certain nombre de règles qui peuvent apparaître à ces jeunes générations comme étant des règles discriminatoires. Mmh. Vous portez le foulard, pour ces jeunes, le fait de l'interdire, c'est une posture discriminatoire qui va à l'encontre de ce qu'on leur apprend à l'intérieur des collèges ou des lycées. Puis j'ajouterai un troisième élément qui me semble très important, c'est le fait qu'il faut mobiliser ici une sociologie de l'expérience. C'est-à-dire que ces jeunes sautent au contact de jeunes comme eux qui affichent une identité religieuse et qui ne considère pas que cette identité religieuse puisse être porteuse de séparatisme, de communautarisme et peut-être à terme de terrorisme. Il considère qu'au fond, c'est le choix de chacun de s'affirmer dans son individualité religieuse, que ses élèves, ses condisciples sont de bons camarades, de bons amis avec lesquels, au fond, on peut faire société.
Et en écho au propos précédent que vous aviez, je vais soulever cette question. Est-ce que la laïcité est une arme anti-religieuse ou un vecteur de liberté ?
RFI, le débat du jour, Romain Ozoui.
La laïcité entrave-t-elle les religions ? La question qu'on pose ce soir. Alors qu'évidemment, cette journée de mardi est marquée par les 10 ans de l'attentat qui a touché le journal français satirique Charlie Hebdo, qui brandissait comme étendard et continue de brandir comme étendard la laïcité. Mes trois invités, Philippe Portier, que l'on entendait, sociologue, spécialiste des laïcités, titulaire de la chaire Histoire et Sociologie des laïcités à l'École pratique des hautes études. Carole Zerbib, proviseur du lycée Vauclin à Paris, co-responsable de l'Observatoire national de la laïcité du Syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. Et Nicolas Cadenne, co-fondateur de la Vigie de la laïcité. Je voudrais vous donner la parole à présent, Nicolas Cadenne. On a beaucoup évoquer finalement les atteintes à la laïcité et comment défendre la laïcité en France. Maintenant, je voudrais vraiment qu'on confronte cette idée de la laïcité avec les religions en France. Est-ce que c'est difficile dans un pays, je ne parle pas seulement de la France, mais est-ce que c'est compliqué d'être croyant dans un pays laïque ?
Non, au contraire, grâce à la laïcité, vous pouvez exprimer votre foi, vous pouvez vivre votre foi pleinement, vous serez traité exactement comme n'importe quel autre citoyen, qu'il soit croyant d'une autre religion ou non-croyant. Donc, au contraire, la laïcité est un cadre qui va permettre à tout croyant d'exprimer et de vivre sa foi pleinement. C'est un État aussi, enfin, c'est un pays aussi, la France, qui est très sécularisé. Et ce qui veut dire que la société, pour faire simple, s'est progressivement très largement éloignée du religieux. Et là, du coup, c'est un peu plus compliqué, parce qu'effectivement, le recours à la religion, la pratique religieuse visible en tous les cas est pas forcément bien vue dans un pays très largement sécularisé qui s'est largement et progressivement éloigné des symboles religieux, même si on constate un nouveau recours à la religion dans pas mal de courants aujourd'hui. Mais en tout cas, de base, de principe, la laïcité n'est pas du tout une entrave à la religion et c'est plutôt au contraire une belle chose pour ceux qui sont croyants, puisque vous avez beaucoup de pays qui ne sont pas laïcs, où si vous n'êtes pas de la religion majoritaire ou reconnue par l'État, vous serez mis en grande difficulté potentiellement dans votre pratique religieuse.
Après, la séparation de l'Église et de l'État en France, ça ne fait pas si longtemps, ça fait 1905, la loi de 1905 de l'Église et de l'État, ça fait un peu plus d'un siècle. Il y a cette tradition catholique qui reste forte en France et qui se confronte à la laïcité.
Oui, bien sûr, vous avez... Alors, la laïcité ne nie pas du tout les influences plus ou moins fortes qui ont traversé notre société. En revanche, elle pose un cadre commun à toutes et tous. Elle rappelle que, on est une société plurielle depuis maintenant de nombreux siècles, qui a d'ailleurs connu de graves conflits au départ du fait d'un État, d'un pouvoir qui était très lié à la seule Église catholique et qui favorisait la seule Église catholique et une majorité catholique. On se souvient des guerres de religion. Puis ensuite, des discriminations ont été légalisées à l'encontre de toute minorité. Et donc, justement, dans ce contexte de grande tension dans une société plurielle, qui est la société française, et ce n'est pas nouveau qu'elle soit plurielle, elle a toujours en réalité été très plurielle. La laïcité a été pensée pour, d'une part, se dégager d'une tutelle de l'Église catholique sur le pouvoir politique, bien sûr, mais aussi, d'autre part, pour assurer la paix civile et faire en sorte que tous les Françaises et Français puissent vivre et faire ensemble, au-delà de leur appartenance propre, en étant traités à égalité par un État qui, lui, serait neutre. C'est l'État qui est neutre, bien sûr, et pas les citoyens.
Philippe Portier, je vais donner la parole à Carole Zerbib dans quelques instants, mais Philippe Portier, comment la laïcité française observe-t-elle une religion catholique qui est en déclin, qui est de la religion traditionnelle, évidemment, en France. En 1980, 70% des Françaises déclaraient catholiques. Ils étaient 32% en 2018. Et ce sont des chiffres qui ne cessent de baisser. Et à l'inverse, une autre religion, par exemple l'islam, dont les pratiquants sont de plus en plus nombreux, et qui est aujourd'hui la deuxième religion en France.
Oui, deux choses, si vous voulez. La première chose, c'est que, pour ce qui concerne le catholicisme, sa doctrine a profondément changé vis-à-vis de la laïcité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, d'un côté, comme c'était le cas au XIXe siècle, l'Église catholique, de l'autre, l'État ou la République laïque. Il se trouve qu'à partir, en gros, de la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais plus encore à partir du Concile Vatican II, l'Église a adopté le schéma de la laïcité, à condition, bien sûr, que cette laïcité corresponde à un état du droit qui serait un état du droit très favorable à la liberté de conscience. C'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, qu'il faut lire le texte que le pape François a prononcé à Ajaccio quand il évoquait la nécessité d'une laïcité évolutive. Ce serait une laïcité qui ne serait pas repliée sur elle-même, mais qui s'ouvrirait à la contribution du religieux au débat public. Ça, c'est un premier élément.
Ça traduit comment, concrètement ? Parce que effectivement, j'allais évoquer ce qu'a dit le pape François, parce que ça a fait vivement réagir. Il a effectivement appelé à cette évolution, cette laïcité évolutive. Quelques temps plus tôt, il avait évoqué une laïcité française à la coloration héritée des Lumières beaucoup trop forte, ce qui conduit selon lui à présenter les religions comme une sous-culture. Donc là, il y a clairement il interfère finalement. En tout cas, il estime que c'est la question de notre débat ce soir. Il estime que la laïcité entrave la religion.
Non, il estime qu'une certaine conception de la laïcité entrave les religions. Mais il en accepte le principe, ce qui est tout à fait différent.
Donc la laïcité est la française, certaines conceptions.
Si vous revenez plusieurs décennies en arrière, je pense par exemple à une déclaration des évêques en mars 1925. Ils considèrent que les lois de la laïcité ne sont pas des lois, mais des violences. Elles sont foncièrement injuste. Vous ne trouverez plus jamais ça dans les textes contemporains. Pour une raison toute simple, c'est que la laïcité a répudié sa théologie traditionnelle de l'État catholique. Dans les textes anciens, le bon État, c'était un État dans lequel existait une unité de foi rassemblée autour de l'Église. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Depuis le Concile Vatican II, il y a eu une acceptation du pluralisme religieux. Alors, une fois qu'on a dit cela, comment, lorsque l'on est un évêque catholique, lorsqu'on est le pape, comment négocier ce pluralisme religieux? Vous avez, de leur point de vue, deux voies. Une voie qui consiste à dire le religieux doit être uniquement une affaire de conscience privée, et c'est, du point de vue du pape, dans ses déclarations, la ligne tendancielle, pas constamment repérable, mais une ligne tendancielle de la laïcité française, que d'assigner le religieux à domicile privé. L'autre façon d'envisager le pluralisme religieux pour la hiérarchie catholique, c'est de considérer que le religieux peut être une voix susceptible de contribuer au débat public et à laquelle il faut donner toutes ses possibilités d'expansion. Alors, ce qui ne se traduit pas du point de vue de l'Église...
Est-ce que c'est compatible avec la laïcité ?
Il se trouve, et j'en viens au deuxième élément très rapidement de votre question, comment l'État conçoit-il l'Église ? Il faut lire de ce point de vue les textes de Jacques Chirac, les textes même de François Mitterrand, et a fortiori les textes de Nicolas Sarkozy, un peu de François Hollande et beaucoup d'Emmanuel Macron pour se rendre compte que le thème fondamental de ces discours, quand ils abordent la laïcité, c'est toujours le thème du dialogue avec les forces religieuses. Ouais. Comme si, précisément, dans une société qui est aujourd'hui une société volontiers relativiste, volontiers subjectiviste, on avait besoin de ressources de foi et de liens, de ressources de sens aussi, pour arrimer des existences qui, du point de vue des présidents de la République, tentent à partir à volo.
Carole Zerbib, je voudrais qu'on distribue la parole. Il nous reste quelques minutes. Puisque vous évoquez Emmanuel Macron, l'État, c'est intéressant. Est-ce que aujourd'hui cette question, est-ce que c'est pas trop cantonné? C'est-à-dire que, justement, on évoquait Emmanuel Macron. Il a, lors de la réouverture de Notre-Dame, il n'y a pas eu de référence religieuse. Comme si, au nom de la laïcité, tout ce qui va être une référence aux religieux, ça brûle, parce que il faut surtout pas qu'on ait le sentiment que l'État interfère. Est-ce que c'est pas un excès, ça? Et vous, en tant que proviseur, vous avez peut-être des choses à dire là-dessus.
On reste dans le principe laïque, donc on attend ça quand même du chef de l'État, qu'il soit garant de la laïcité et qu'il se l'applique à lui-même et dans ses actes. Alors, on a vu le fait d'allumer une bougie de Hanouka en présence d'un rabbin à l'Élysée. Voilà. Est-ce que là, le chef de l'État était dans son rôle? On peut se poser la question. En tout cas, quand on se pose la question, c'est bien qu'on a le sentiment qu'à ce moment-là, le chef de l'État n'était pas dans son rôle. Est-ce qu'un proviseur allumerait une bougie de Hanouka ou mettrait une crèche dans son établissement scolaire, eh bien non, il ne le ferait pas. En tant que représentant de l'État, on ne peut pas le faire.
Ouais. Voilà. Est-ce qu'il finalement il préside la cérémonie de Notre-Dame parce que c'est un site religieux ou c'est un patrimoine français?
Mais oui, mais lui, il est chef de l'État, il incarne quelque chose. Donc s'il était homme d'église et qu'il le fasse, oui, bien sûr, ce serait pas en contradiction. Mais là, il a un rôle à respecter. Il doit rester dans son rôle.
Alors le fait, est-ce que c'est pour des raisons
de météo? Et respecter son devoir de neutralité.
Il a prononcé son discours dans Notre-Dame.
Mais oui, pour des raisons de météo.
Raisons de météo. Mais bon. Est-ce que
les éléments s'étaient déchaînés?
est-ce que c'était pas sa place d'être là?
J'aurais préféré qu'il le fasse à l'extérieur. Maintenant, je comprends que pour des raisons liées au temps, il les fait à l'intérieur, mais sa place aurait été à l'extérieur, oui.
Nicolas Cadenne, le mot de la fin, il nous reste une minute. Comment vous observez justement la responsabilité finalement de l'État et donc du président, évidemment, à la tête de l'État, pour faire respecter cette laïcité et justement faire qu'elle n'entrave pas les religions?
Écoutez, moi je pense que dans le débat public, nos responsables politiques, enfin beaucoup d'entre eux, et notamment au niveau de l'État, ont tendance à dire laïcité, un petit peu en sautant comme un cabri, comme dirait le général de Gaulle, et donc à faire beaucoup de discours, mais pas forcément d'actes de fond. Soyons honnêtes, par exemple, un point majeur pour que la laïcité se porte bien et mieux, pour faire baisser notamment les atteintes à la laïcité, par exemple dans les établissements scolaires, c'est de renforcer la mixité sociale. Parce que si vous ne renforcez pas la mixité sociale, vous avez des publics scolaires qui sont homogènes et qui peuvent conduire à des replis ou même à des pressions entre eux. Donc il faut renforcer l'interactivité, le débat d'idées et donc renforcer la mixité sociale à tous les niveaux et notamment dans les écoles. On sait là où ça a été fait que ça a fait considérablement chuter toute atteinte à la laïcité. Mais voilà, c'est du fond, c'est du moyen, voire du long terme. Ça prend du temps, c'est plus que des discours et c'est là, je pense, qu'on attend nos acteurs politiques. C'est pour mener des actions de fond.
Eh bien, merci Nicolas Cadenne. En tout cas, il y a des perspectives. Et non, la laïcité n'entrave pas les religions. Si je suis ce que vous nous avez dit ce soir, tous les trois, Philippe Portier, merci. Carole Zerbib, Nicolas Cadenne, merci à Florence Ponce à la préparation de ce débat. Et Claude Battista à sa réalisation. Il est déjà presque 18h59 ici à Paris. Bonsoir Zéphirin Quadio.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
On vous retrouve dans 30 minutes pour la première édition d'Afrique Soir. Au programme ce soir, la colère du Sénégal et du Tchad après les mots d'Emmanuel Macron.
On a eu raison d'intervenir contre le terrorisme en Afrique. On a juste oublié de nous dire merci. Déclaration du président français hier à la conférence des ambassadeurs à Paris. Des mots qui suscitent des réactions outrées hein, sur le continent. Le point sur cette sortie du chef de l'État français. À suivre.
À suivre également l'inquiétude de la communauté internationale concernant le regain de violence en RDC.
Absolument. De violents combats ont repris dans l'est du pays. Des combats entre l'armée et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Dès hier, l'Union européenne a condamné fermement les récentes offensives du M23 en violation du cessez-le-feu convenu dans le cadre du processus de Luanda. Même son de cloche du côté des États-Unis.
À tout à l'heure.